Dieu notre Père, nous sommes heureux d'être ensemble en ta présence et de savoir que la promesse que Jésus nous a faite se réalise là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Je suis là, au milieu d'eux, pour que chacun de nous puisse éprouver la présence de Jésus, de ton bien-aimé, et qu'il ne reste plus extérieur à notre vie, que nous ne le laissions plus derrière la porte de notre cœur, mais que ce matin, entendant sa voix, nous puissions personnellement, individuellement, lui ouvrir et qu'il puisse entrer chez nous et souper avec nous, être dans cette communion intime qu'il a promis à ceux qui l'acceptent et le reçoivent. C'est la grâce que nous te demandons pour tous, afin que nous quittions ce lieu enrichi non pas de connaître des doctrines, mais enrichi d'avoir reçu la personne même de Jésus et de connaître dans nos vies sa présence réelle, notre cœur étant devenu le tabernacle où il veut habiter tous les jours de notre vie et à toutes les heures de notre existence. Tout cela, nous te le demandons pour la gloire de ton nom, ô Père, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, par la puissance de ton Esprit. Amen. Eh bien, mes amis, nous sommes déjà arrivés au dernier matin de cette retraite sur les trois âges de la vie chrétienne. Et je me suis demandé si ce 25 octobre 1981 serait pour l'un ou l'autre d'entre nous la journée du Seigneur, celle où réellement nous le laisserons entrer dans notre vie, pour qu'il y naisse, qu'il y grandisse, qu'il s'épanouisse dans la glorieuse liberté qu'il donne aux enfants de Dieu. Et tout à l'heure, alors que j'avais fait quelques pas là sur la colline, je pensais à chacun de vous et à ce verset du psaume 118. Que je voudrais que vous puissiez vivre aujourd'hui, 25 octobre 81. Le psalmiste s'écrit au verset 24 de ce psaume 118, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Si vous saviez comme ce souhait habite dans mon cœur, je ne m'illusionne pas, je sais très bien qu'au cours de ces journées, si vous avez écouté la parole et si vous l'avez laissé pénétrer dans vos consciences et dans vos cœurs, je sais qu'elle n'a pas toujours apporté de la joie. Elle ne m'en apporte pas toujours, parce que tout à coup, la lumière qu'elle m'apporte me montre l'état de mon cœur et me montre ce qui ne va pas. Et alors, cela m'amène à une humiliation et peut-être aussi à une confession de choses que je n'avais pas encore vues et que je dois laisser parce que ce n'est pas en accord avec la vie de mon Seigneur. Et alors, on passe par ces moments de tristesse, mais d'une tristesse, j'aimerais tout de suite le souligner, dont on n'a pas de regret, c'est Paul qui le dit. Il y a des larmes dont on n'a pas de regret. C'est une tristesse qui est selon Dieu et qui produit en nous une véritable repentance parce que le Seigneur voudrait nous amener plus loin. Et ce qu'il nous permet de laisser, d'abandonner, eh bien, voyez-vous, vous n'allez rien perdre. C'est de la boue, c'est des ordures, dit saint Paul, ce qu'on laisse. Et c'est pour que nous ayons les mains vides pour saisir ses trésors à lui. Ce qui est plus précieux que ce que vous croyez perdre. Oh mes bien-aimés, je ne vais pas vous présenter la vie chrétienne comme une vie de sacrifice. Vous devez abandonner ceci, vous devez abandonner ça. Ce n'est pas vrai. Quand vous avez quelque chose de meilleur devant vous, vous lâchez ce que vous avez dans les mains. Parce que c'est plus excellent. Eh bien, croyez-le, le Seigneur aujourd'hui va vous donner quelque chose de plus excellent. Et il ne vous fait aucun reproche. Il ne vous reproche pas même votre vie passée, quelle qu'elle soit. Il vous dit, on va commencer ensemble. C'est ça qui est merveilleux. Avec Jésus, tout peut commencer aujourd'hui. Et si même vous vous dites, mais j'ai perdu des années, eh bien, j'ai une promesse merveilleuse dans le prophète Joël, au chapitre 2, au verset 25, il est dit, je vous redonnerai les années perdues. Je vous redonnerai ces années qu'ont mangé la locuste, la sauterelle et tous ces animaux au fond et qui ont accaparé si souvent notre vie, toutes ces choses matérielles. Et vous savez qu'avec Jésus, quand on commence une vie nouvelle avec lui, un jour vaut mieux que mille. Alors une seule journée avec le Seigneur, ça vous en donne mille. Vous voyez combien d'années vous rattrapez. Si le Seigneur nous donne encore de vivre 30 jours, eh bien, je vous laisse compter le nombre d'années que ça vous redonne entièrement pour le Seigneur. Il est merveilleux, notre Seigneur. Et c'est à tous que j'aime à dire cela. Nous allons maintenant consacrer cette heure à l'examen de la troisième période d'une vie vraiment chrétienne. Cet âge de maturité dont voulait certainement parler l'apôtre Jean dans ce chapitre 2 de sa première épître, lorsqu'il disait « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Et puis immédiatement après, il ajoute encore, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Versets 13 et 14 du chapitre 2. Donc, sans nul doute, celui qui est dès le commencement, vous saisissez, que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, dont le même apôtre, Jean, a dit dans son évangile que la parole était auprès de Dieu, au commencement, avec Dieu, qu'elle était auprès de Dieu et qu'elle était Dieu. Que toutes choses ont été faites par elle et que cette parole est devenue chair au moment de la naissance de Jésus, de son incarnation dans ce corps qui avait été formé dans le sein de la bienheureuse Marie et qui s'était donnée au Seigneur pour qu'il fasse en elle tout ce qu'il voulait. Bon, si vous pouviez prendre cet exemple. Et ce matin, à l'instar de Marie, dire vraiment, le Seigneur, fais avec moi, fais en moi tout ce que tu veux, qu'il me soit fait selon ta parole. Laissez-vous faire, le Seigneur vous bénira. Il y a, mes amis, dans ce passage du disciple bien-aimé, je vous écris, Père, il y a dans ces expressions une expérience que tous les vrais croyants ont pu faire ou que vous allez faire si aujourd'hui, comme jamais, vous recevez dans vos vies le Seigneur Jésus. Si vous lui dites, Seigneur Jésus, maintenant ce n'est pas la moitié de mon cœur que je te donne, ce n'est pas un appartement dans ma vie que je te donne la maison tout entière. Vous avez peur de ce propriétaire? Vous savez, c'est lui qui prendra toutes les charges. Puis, vous serez délivré des taxes. Ça, c'est quand même merveilleux. Quand vous voulez rester propriétaire, vous avez toutes les charges. Mais si vous le laissez devenir propriétaire, il vous invite après chez lui. Il prend la maison, il vous prend complètement, puis après, vous rentrez chez lui. Chez vous, mais c'est chez lui. C'est ça qui est merveilleux. Nous demeurons en lui et lui demeure en nous. C'est comme une éponge. Vous avez vu l'éponge? Eh bien, on la plonge dans l'eau et puis l'eau remplit l'éponge. Et c'est comme ça. Soyez l'éponge qui est mise dans l'eau, qui est pénétrée de toute manière. C'est le Seigneur qui est en vous et que vous êtes en lui. Souvenez-vous de cette image. Il y a un de mes chers amis ici qui m'a dit qu'il aimait bien quand je parlais en image, que j'aurais besoin de moins de mots si je donnais encore davantage d'images. Hein. Et c'est vrai. Alors, je veux croire que vous allez bien comprendre ces choses. Soyons de ces éponges qui se laissent imbiber par la parole du Seigneur, puisque nous avons dit que la parole est considérée dans l'Écriture comme de l'eau. Et c'est tellement vrai que quand nous lisons la parole, c'est comme si on prenait un bain. Vous n'avez jamais réalisé ça? Elle nous lave, elle nous purifie, elle nous remet dans une bonne pensée. Le simple fait de lire la parole, c'est un véritable lavage. Alors, j'espère que vous vous lavez chaque jour, peut-être même plusieurs fois par jour, eh bien, puissiez-vous aussi comprendre que ce qui va laver votre être, c'est la lecture de la parole, mais qu'on ne fait plus pour avoir lu la parole, comme un devoir, mais parce qu'on en a réellement besoin. Oui, ce que disait l'apôtre bien-aimé du Seigneur au sujet de « Je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement », nous en faisons vraiment l'expérience et vous en prie l'expérience que plus on avance dans la vie chrétienne, plus on revient à qui? À Jésus. Plus on découvre que la solution pour nous, c'est Jésus. Si au début du réveil d'une conscience, c'est la connaissance de Jésus qui nous a conduits à Dieu, parce que c'est par Jésus qu'on est conduit au Père, eh bien, je dirais qu'ensuite, l'amour du Père nous ramène au Fils. C'est ça qui est fantastique. Le Fils, quand on le rencontre, nous conduit au Père, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie, nul ne vient au Père que par moi. Mais une fois que nous sommes avec le Père, réconciliés avec le Père, jouissant de cette relation d'enfant de Dieu, qu'est-ce que le Père fait? Il nous renvoie au Fils. Il aime que nous trouvions dans son Fils le plaisir que lui-même trouve, puisque de toute éternité, le Père trouvait son plaisir dans le Fils. Quand on vous demanderait, mais qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde pour Dieu? Il y avait son Fils bien-aimé qui faisait tout son plaisir. Et puis, qu'est-ce qu'il a voulu avant la création du monde? Il a voulu d'autres enfants qui soient comme son Fils. Et alors, il nous a donné son Fils. Dieu n'a pas voulu garder son plaisir pour lui. Il a voulu créer des êtres qui trouvent aussi leur bonheur dans ce qui fait le bonheur de Dieu. J'aime beaucoup cette expression dans l'Épître à Timothée, Dieu est appelé le Dieu bienheureux. Alors, si vous êtes en relation avec le Dieu bienheureux, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes aussi des bienheureux. C'est cette relation avec Dieu qui vous rend bienheureux. Oui, c'est l'expérience que nous faisons en grandissant dans la vie spirituelle. On est réconcilié avec Dieu, on connaît le Père, on a le pardon de nos péchés, mais plus on avance, plus on sent que le Père veut que nous jouissions de son Fils. Et que le Fils devienne l'objet de notre affection. C'est Jésus qui nous conduit au Père, mais nous lisons aussi que nul ne vient au Père, nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Voyez-vous, je voudrais que vous puissiez comprendre cela. Le Père nous attire vers Jésus. Et puis, quand nous arrivons vers Jésus, Jésus nous conduit au Père. C'est une œuvre qui est tellement merveilleuse. Et je me demande ce matin si le Seigneur devrait vous dire, alors que vous avez senti que le Père vous attirait vers le Fils, et que le Fils voudrait vous conduire au Père, est-ce que Jésus devrait dire à quelqu'un ici, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie » Est-ce qu'il y aurait encore ici une âme dans ses dispositions, qui est venue, oui, qui est bien intéressée, mais qui dit « Non, 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 non ». Je sens bien qu'il y a une invitation qui est celle du Père, mais non, non. Alors Jésus dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et puis pourtant, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas venir à lui? Parce que vous voudriez avoir la vie, justement. Et vous avez peur qu'en venant à lui, vous n'ayez plus la vie. Hein? C'est vrai? La vie que vous voudriez mener. Mais vous savez que la vie que vous voudriez mener, c'est peut-être une mort spirituelle. Tandis que la vie que Jésus voudrait vous donner, il ne vous ment pas, c'est une vie éternelle. Vous voudriez vivre pleinement, moi je vous comprends. Vous voudriez rester libre. Mais est-ce que vous ne savez pas qu'il n'y a que le Christ qui peut vous rendre réellement libre? Vous vous croyez libre. Et quand on vous entend, vous dites si souvent, je ne peux pas faire autrement. Je suis bien obligé de faire ainsi, je ne peux pas faire autrement. Et puis tout le monde le sait. C'est une grande liberté. Donc, pratiquement, sans vous en rendre compte, vous êtes esclaves. C'est pourquoi Jésus disait, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous vous croyez libre, mais au fond, vous êtes esclave de vos convoitises, et c'est toujours par les convoitises que le diable réussit à dominer sur nous. Eh bien, n'entendrez-vous pas ce matin cette parole de Jésus qui vous dit, et qui dit lui-même, parce que je crois qu'il est ici au milieu de nous, il lève les yeux au ciel, il vous a tous regardés, puis il dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut dire, ben, moi je veux être comme un petit enfant, je veux commencer avec Jésus comme un petit enfant. Et puis, Jésus ajoute encore cette parole merveilleuse, c'est dans le chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, qu'est-ce qu'il dit? C'est tellement beau. Oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi, que ce soit des petits-enfants qui comprennent cela. Toutes choses, verset 27 du chapitre 11 de Matthieu, m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Eh bien oui, Dieu voudrait que son Fils vous révèle le cœur du Père. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit pour que cela arrive? Bien, il vous dit cela. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis dur. C'est ça? Car je suis doux. Vous croyez qu'il vous ment? C'est le monde qui est dur. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est lourd et mon fardeau accablant. C'est ça? Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voilà ce qu'il vous a dit dans cette journée du 25 octobre 1981. En vérité, je vous le dis, mon joug est doux, mon fardeau est léger. J'entends toujours cette femme d'un banquier de Monte Carlo qui me disait un jour, alors qu'elle avait pensé se suicider, je l'avais rencontrée tout à fait par la providence divine dans un hôtel du Valais dans mon pays, où j'étais allé pour ne parler à personne. Parce que je voulais être seul avec le Seigneur. Mais vous savez qu'on doit signer dans les hôtels une petite carte, et puis la patronne de l'hôtel, une dame catholique, c'était un hôtel catholique, qui a vu ce que j'étais, prédicateur, pasteur, bon, alors elle vient vers moi, puis elle frappe à ma porte, et elle me dit, vous savez, on a une dame qui est dans un état désespéré, est-ce que vous pourriez lui parler? Elle ne me connaissait pas, cette femme, on est devenue très amie après, avec la patronne de l'hôtel. Alors j'y suis allée, et cette femme a trouvé le Seigneur, mais elle m'a raconté sa vie en quelques mots. Et elle avait une grande situation, une haute situation dans la principauté de Monaco. Et puis, un jour, malheureusement, son mari a joué au casino et il a tout perdu. Et forcément, alors qu'elle était reçue avant dans tous les salons, une fois qu'elle avait plus d'argent, c'était la porte fermée. Et elle pleurait, elle me disait, « Oh, monsieur Racine, maintenant, dis ton jeûne !» Parce que j'étais encore jeune ce temps-là. Puis elle savait que je m'occupais des jeunes, puis je continue de m'occuper des jeunes, malgré les années qui se sont accumulées. Et elle disait, « Dites-leur que c'est vrai ce que Jésus a dit, que seul son joug est doux, ils ne savent pas ce que c'est que le joug du monde !» Et le fardeau du monde, quand il faut aller dans les salons, qu'on doit être reçu, il faut avoir certains habits, il faut être informé sur les derniers romans, sur les derniers films, il faut les avoir vus pour qu'on soit à la hauteur de la conversation, hein, pour qu'on puisse jaser, comme vous dites ici au Québec, hein, de toutes ces choses, pour qu'on montre qu'on est au courant. C'est un joug écrasant, le joug de Jésus. Il est doux. Bien, je vous donne cette communication de cette femme. C'est pas moi qui vous le dis, mais elle disait, dites-leur, moi j'ai connu le joug du monde. Seul le joug de Jésus est doux. C'est pas à la porte du directeur du cinéma que vous allez quand vous n'avez plus rien. Le diable est un meurtrier et un menteur. Il vous fait toute espèce de promesse, tant qu'il peut vous pressurer. Et puis une fois que le citron est vide, il vous jette à la poubelle. C'est ça Satan, oui. Ce Satan qui a le visage que le monde aime. Hein? Parce que ne croyez pas que Satan est, comme on le montrait dans l'imagerie moyenâgeuse, avec des cornes, une petite queue, et puis des pieds fourchus. Non, c'est pas du tout ça. Satan, il a le visage que le monde aime. C'est l'ange de lumière. Oh, que c'est vrai quand Jésus dit, moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, parce qu'en réalité, le monde ne donne rien. Il vous prend, il vous possède, puis quand vous n'avez plus rien, il vous rejette. Et c'est tellement vrai que quand on meurt, on n'a plus même de place pour nous, on nous met sous la terre. Hein? Vous le savez, c'est vrai, tous les jours, nous pouvons y penser. Tandis que le Seigneur, lui, il nous prend auprès de lui. Il nous a fait une place dans le ciel. Et je voudrais que vous puissiez jouir de cette certitude que vous avez une place. Eh bien, voyez-vous, au début de la vie chrétienne, au premier jour de notre conversion, quand on se tourne vers le Seigneur, qu'est-ce que nous remarquons? Bien, si je suis vrai, je vois que j'ai surtout embrassé le Christ parce que j'étais un naufragé, parce que j'ai réalisé que j'étais perdu. On reçoit le Christ, bien souvent, au début de notre vie chrétienne, plutôt comme une planche de salut qui peut nous sauver de la mort et nous aider à gagner le rivage. Jésus est pour nous plutôt cette échelle mystérieuse qui nous permet de sortir du gouffre. On était dans le gouffre et puis voilà, on nous a présenté l'évangile et on s'est dit, eh bien, maintenant je peux prendre cette échelle. Jésus c'est plutôt la planche de salut, Jésus c'est plutôt la corde de sauvetage, Jésus c'est l'échelle mystérieuse, c'est le pont qui est jeté sur l'abîme creusé entre Dieu et nous par nos péchés. Alors, nous montons rapidement l'échelle, nous franchissons avec joie le pont qui nous fait retrouver la porte de la maison paternelle. Puis maintenant, on est de nouveau avec le Père. Alors, on est dans la joie. Mais plus tard, à mesure que nous jouissons davantage de la réconciliation avec notre Père, nous apprécions mieux les mérites et l'amour de celui qui nous a prouvé qu'il nous aimait d'une façon totale et qu'il a accompli l'œuvre de notre salut par son sacrifice ineffable. Oh, quand je pense au prix de la grâce, on vous dit que c'est gratuit le salut, hein, c'est vrai. Mais ça a coûté quoi? La vie du Seigneur. Et ces souffrances inimaginables. J'ai parlé l'autre jour à Dona, ma jeunesse en mission, de ces trois abîmes que le Seigneur a connus. Il est descendu de ce temple où tout disait gloire. Et il est entré dans cet abîme de péché où nous nous trouvions, et où se trouve le monde. Mais il a englouti cet abîme de péché dans l'abîme de ses souffrances. Et pour engloutir l'abîme de péché et de ses souffrances, qu'est-ce qu'il a fallu? Un abîme d'amour. Eh bien, le Seigneur est descendu jusqu'au fond, au plus bas, et il a englouti et nos péchés et nos souffrances dans l'abîme de son amour. Alors, plus on médite sur cela, plus on a la révélation de l'amour du Seigneur, plus on aime le Seigneur, plus on sent que le Père désire nous voir constamment dans l'amour de son Fils. Car l'amour du Père, c'est qui? C'est son Fils. C'est pas un sentiment. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Qu'est-ce que c'est que l'amour du Père? C'est Jésus. Alors, je préfère Jésus à ce monde. Jésus Sauveur devient maintenant Jésus Seigneur. Et Jésus Sauveur et Seigneur devient maintenant pour nous Jésus notre bien-aimé. Vous savez, il y a une gradation. Il devient le bien-aimé de nos âmes. Nous ne pouvons plus nous passer de lui. Dans sa connaissance, nous voyons que il y a toute notre sagesse. Dans son amour, toute notre vie. Dans sa communion, toute notre force. Dans sa justice, toute sa sainteté. Dieu, dans sa grâce, dit l'Écriture, nous a placés en Jésus-Christ lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est Jésus qui est tout cela pour nous. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Il ne vous demande pas de devenir sage. Il dit, je serai ta sagesse. Reçois-moi, je serai ta sagesse. Il ne vous demande pas de devenir saint. Vous ne pouvez pas. Il vous dit, je serai ta sainteté. Il ne vous demande pas de devenir juste. Vous ne pouvez pas. Il vous dit, je serai ta justice. Il ne vous demande pas de vous racheter vous-même, vous n'avez rien. Il sera votre rédemption. Oh, si le Saint-Esprit voulait nous faire comprendre cela, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tous les trésors de la connaissance sont en lui. Quelle richesse merveilleuse. Alors, la personne de Jésus, ses titres, son caractère, ses œuvres, sa puissance s'offrent à nous sous un jour toujours plus lumineux et sollicitent de plus en plus l'attention de notre esprit et je dirais les affections de notre cœur. Et voyez-vous, c'est là toute la question. Quand on aime, on peut faire n'importe quoi. Tout est possible à celui qui aime. Même on peut faire des folies quand on aime. Bien, faites quelques folies pour Dieu. Aimez-le assez qu'on dise de vous, c'est des fous pour Dieu. Pourquoi est-ce que vous seriez fous? Oh, vous êtes fous pour cela, vous êtes fous pour autre chose. Pourquoi est-ce que moi je ne serais pas un fou pour Dieu? Je sais que Dieu m'a aimé à la folie. Il a commis cette folie de me donner son fils. Alors, peu importe si on dit qu'on est fou d'amour pour le Seigneur, ça vaut la peine. Acceptez qu'on se moque de vous, qu'on vous prenne pour des fous. Heureuse folie qui nous apporte la guérison de bien des maux et qui nous apporte la guérison de toutes nos dépressions. Car quand on se fait aimer du Seigneur, il ne nous laisse plus couler. Et nous pouvons dire non à la dépression et trouver dans les compassions de Jésus, la guérison. Car, voyez-vous, ce n'est plus la loi qui va s'imposer à vous. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. On est mort à la loi. Comme on est mort au péché, comme on est mort à nous-mêmes, on est mort aussi à la loi. Alors, vous n'êtes plus sous la loi qui vous ordonne des choses que vous n'aimez pas tellement faire. Mais maintenant, ayant en Jésus une nouvelle nature, vous faites certaines choses parce que vous aimez les faire. C'est cela qui est merveilleux. C'est le fruit d'une autre vie en vous. Et puis, plus vous avancerez, plus vous vous direz, en pensant à votre ancienne vie, mais comment est-ce que j'ai pu aimer ces choses qui me font honte maintenant? Mais je ne veux pas que vous restiez toujours à regarder ce passé qui vous fait honte. Dieu dit qu'il ne voit plus votre passé. Est-ce que vous le croyez? Si je vous dis que Dieu vous dit qu'il ne voit plus votre passé, parce qu'il dit Jésus t'a tellement aimé qu'il a pris tout ton passé, tous tes péchés, et il n'en a oublié aucun. Vous pouvez, en essayant de faire une confession générale, apportez tous vos péchés, pensez que vous en oubliez aucun, que vous en oubliez encore. Eh bien, Dieu vous dit que lui qui sait tout de vous, eh bien, en sachant tout de vous, je ne me souviens plus de vos péchés, ni de vos iniquités. Quand Dieu a pardonné en Christ, il ne nous dit pas, je t'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Vous connaissez ça. Ça, c'est nous, hein. Méchants, méchants comme nous sommes. Hein. Mais Dieu, quand il a pardonné, c'est du total. C'est total. C'est complet. Oh, ne vous imaginez pas que Dieu est comme nous. Il est dit dans l'Écriture, tu t'es imaginé que j'étais comme toi. On est drôlement méchants, nous. Mais Dieu, il est amour. Alors, croyez à son ami. Vous n'avez pas le droit de vous désespérer. Ça serait un péché. Le désespoir, c'est un péché. Jésus est venu pour les désespérés. Et vous ne pouvez pas tomber ailleurs que dans ses bras. Vous dites, mais je suis tellement bas. Non, tu es encore trop haut. Tu es encore trop haut si tu ne veux pas aller. Jésus est plus bas que toi. Il t'attend non pas au sommet de la montagne et il te dit, gravis, viens jusqu'à moi. Il te dit, laisse-toi tomber dans mes bras. Elle saute dans le vide. Mais vous dites, je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Au-dessous de vous sont les bras éternels. Et alors, il n'est pas question d'une lutte pour arriver dans la vie chrétienne. Il est question d'un abandon pour se laisser faire par le Seigneur Jésus, qui a les affections de notre cœur. Maintenant, le Fils de Dieu commande notre adoration. Nous lui donnons gloire, comme à celui qui est Dieu de Dieu, Dieu avec Dieu, Dieu comme Dieu. Vous savez que Maurice Clavel, cet écrivain français de gauche, s'est converti quand il a compris simplement que Dieu était Dieu. Ça a été une révélation pour lui. Et il s'est donné au Seigneur. Dieu est Dieu. Si tout à coup vous comprenez ça, eh bien, votre vie peut être transformée. Et alors, ce Rédempteur, nous voyons son sacrifice parfait, nous voyons ses mérites infinis, que nous acceptons journellement avec un besoin toujours nouveau comme seul titre à l'amour du Père et à la vie éternelle. Pourquoi est-ce que j'ai la vie éternelle? Pourquoi est-ce que le Père m'aime? Parce que maintenant, j'ai reçu son Fils. Et alors le Seigneur exerce sur nos âmes son doux empire et tout notre désir est qu'il règne sur nous d'une manière vraiment absolue. Et quand je vois Jésus comme prophète, eh bien je sais qu'il me conduit dans la vérité par sa parole, par son esprit. Nous nous mettons à apprendre ses leçons et nous savons que ses leçons sont meilleures que toutes les leçons du monde et que sa voix est pour nous la voix du Maître qui fait taire à nos oreilles les leçons du monde. Est la voix de nos passions. Il nous anime, il nous conduit à marcher dans ses traces. Et voyez-vous, quand je vois les traces du Seigneur, je vois que sa vie a manifesté en toutes choses la volonté de son Père. Et cette volonté, alors, elle devient ma nourriture. Quand je vois la vie de Jésus, qui pouvait dire, vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, parce que le Père qui m'a envoyé est avec moi. Pourquoi? Parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Alors, les choses que je vois en Jésus étaient les choses qui plaisaient à son Père. Et ça commence aussi à me plaire. Quand une chose commence à nous plaire, hein, ça gagne notre cœur, ça nous empoigne. Eh bien oui, qu'il puisse vous plaire, lui qui a été l'homme de douleur, qui peut nous comprendre dans toutes nos épreuves. Lui qui sera bientôt le juge du monde, mais que nous attendons non pas comme juge, mais comme sauveur, qui va transformer notre corps de misère, parce qu'on est tous dans des corps de misère. Chacun a son petit cancer. Chacun a ses maux. Mais un jour, nous serons aussi délivrés de nos maux physiques. Nous attendons Jésus comme sauveur, qui transformera à sa venue le corps de notre misère en la conformité de son corps de gloire, selon ce pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, et qui en même temps ressuscitera tous nos bien-aimés qui se sont endormis en lui et qui retrouveront des corps glorieux. Et ensemble, sur les nuées du ciel, nous serons ravis dans les airs, comme dit l'Écriture, pour entrer ensemble dans la maison du Père. Après avoir habité ensemble chez les sœurs grises, ce serait beau, hein, d'entrer aussi ensemble dans la maison du Père. Et voyez-vous, tout notre passé, tout notre présent, tout notre avenir sont à lui. Ce passé, le sang du Christ l'a effacé. alors vous avez la paix quant à votre passé, la paix avec Dieu. Pour le présent, qu'est-ce qui se passe? Il est dit que vous êtes gardé par la puissance de Dieu. Vous êtes l'objet de sa grâce. Et puis, pour votre avenir, eh bien, il est garanti par la fidélité de Dieu. Est-ce que Dieu peut vous abandonner? Une femme oubliera-t-elle son nourrisson pour ne pas avoir compassion du fruit de ses entrailles? Même celle-là, dit l'Écriture, oublieront. Mais moi, je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Les marques des clous de Jésus, c'est le signe de son amour pour vous. Il n'a pas tout souffert pour vous abandonner. Croyez-le. Oh, si vous saviez ce qu'il a en réserve pour vous. Alors, à mesure que nous le contemplons par la foi, nous sommes transformés à son image. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous grandissons. Il est dit, nous tous qui contemplons à face découverte la gloire du Seigneur, il n'est pas dit, nous nous transformons, mais nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Par quoi? Par nos efforts? Par l'Esprit du Seigneur. Cet Esprit qui a couvert Marie, cet Esprit opère en vous et restaure toutes choses. Que c'est merveilleux. De sorte que la vie se développe, l'homme intérieur se fortifie, et quand le fruit est mûr, le Seigneur le recueille dans ses greniers. C'est pourquoi la mort pour le chrétien, c'est une catastrophe. Pour moi, vivre, disait Paul, c'est le Christ. Et mourir, c'est un gain, car être auprès du Christ, cela est de beaucoup meilleur. Alors, quand un enfant de Dieu a fait vraiment l'expérience de ce qu'est la chair, et j'espère que vous avez compris cela, et que vous n'attendez plus rien de votre chair, de votre propre force, quand vous avez appris à vous connaître vous-même et à se dire, au fond, il faudrait que je me quitte. Vous avez compris ça, qu'il faudrait que vous vous quittiez pour que ça aille bien. Il faudrait que je me quitte. Vous avez raison. C'est le Saint-Esprit qui vous dit ça. Mais vous vous aimez encore tellement que vous ne voulez pas vous quitter. Jésus dit, mais renonce à toi. C'est ça qui t'ennuie, c'est ça ton fardeau, c'est ça qui est lourd, c'est ton toi. Attention, pas avec un C, hein. Il ne va pas vous tomber sur la tête. Mais c'est toi le fardeau, eh bien quitte-toi. Et quand maintenant l'âme a découvert ce que c'est que le monde, vous savez, parce qu'on a une fausse vision du monde. Le diable nous donne une vision trompeuse du monde. J'ai dit, le monde comme création, vous pouvez l'admirer. Le monde, quant à l'humanité, vous pouvez l'aimer. Mais quand vous voyez le monde dominé par Satan, le système du monde, vous savez bien, c'est un système absolument corrompu, du haut en bas de l'échelle. Et si vous vous attendez encore au monde, sans Dieu, vous serez profondément déçu, comme cette femme de Monaco en témoignait. Eh bien, quand vous aurez découvert ce qu'est le monde, ce que sont ces vains plaisirs dont Tolstoï disait que le péché, les délices du péché, ça nous donnait un arrière-goût de cendre, et c'est tellement vrai. Et quand nous avons connu Satan sous son vrai jour, ce Satan qui a le visage que le monde aime, mais quand on l'a démasqué, alors on réalise que Jésus est vraiment notre vie. Quand en dehors de lui, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien. Mais qu'en lui, tout est à nous. C'est tellement beau. 1 Corinthiens chapitre 3. Tout est à nous. Et vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Tout est à nous. Soit vie, soit mort, soit chose présente, soit chose à venir. Tout est à nous. Et Christ est à Dieu. Nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Alors, quand on arrive à cela, 1 Corinthiens 3, verset 21-22, nous arrivons donc à la maturité spirituelle. Et on peut dire, tout va bien pour nous. On est arrivé à l'âge adulte. Alors, Pour terminer, je vous lis brièvement ce chapitre 4. Alors, dans la version du français courant, pour qu'il vous reste vraiment la parole, je ne vais pas le commenter, mais simplement pour vous montrer que quand on arrive vraiment à l'âge adulte, ben, ce qui caractérise la maturité spirituelle, on quitte en quelque sorte cette enfance, cette adolescence, et on arrive vraiment à réaliser ce que l'apôtre dit au chapitre 4. Lui, le prisonnier, parce qu'il sert le Seigneur. Il dit ceci, « Conduisez-vous d'une façon conforme à ce que Dieu a voulu quand il vous a appelé. Soyez toujours humble, doux, patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle vous avez été appelés. Mais quand on pense à cela, quelle unité cela devrait déjà nous donner? Il y a un seul Seigneur. Est-ce qu'il y a un Seigneur pour les catholiques, un Seigneur pour les protestants, un Seigneur pour les autres? Un seul Seigneur, une seule foi. Est-ce qu'il y a une foi différente? Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est croire ce que Dieu nous dit. C'est croire sa parole. Il y a une seule foi. Il y a un seul baptême. Ce baptême dans la mort de Jésus et dans sa résurrection. Alors, ce n'est pas la date de notre baptême qui compte. Je vous ai dit, ce n'est pas la quantité d'eau du baptême qui compte, c'est le sens du baptême. Et il nous faut vivre le sens profond du baptême chaque jour de notre vie. Je suis mort avec lui et je suis ressuscité avec lui. Paul nous dit, je meurs chaque jour. Il vivait son baptême chaque jour. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Alors, s'il est devenu votre Père et s'il est mon Père, qu'est-ce qu'on est les uns pour les autres? Des petits cousins? Non, nous sommes des frères et des sœurs. On n'a pas le droit de mettre frères entre guillemets. Nous sommes seulement nous les frères. Non, on est frères en Jésus-Christ. Frères et sœurs en Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. C'est merveilleux cela. Hein? Et puis, chacun de nous a reçu un don particulier conformément à ce que le Christ a donné. Est-ce que vous avez déjà réalisé que Dieu vous avait donné aussi un don particulier, qu'il attend de vous un témoignage? Comme le déclare l'Écriture, quand il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers avec lui, il a accordé des dons aux hommes. Il a emmené tous ceux qui étaient captifs. Il les a emmenés dans son ciel de gloire. Je disais, notre enlèvement spirituel a déjà eu lieu. Puis, une fois qu'on est en lui, dans ce ciel de gloire, il nous redonne à la terre pour un témoignage. Or, que veut dire il est monté? Cela veut dire qu'il est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est le même que celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a accordé des dons particuliers aux hommes. Il a donné aux uns d'être apôtres. Vous voyez, là, ce n'est pas des dons de l'esprit, c'est des hommes qui sont donnés à l'Église, hein, qui sont donnés dans le monde. Les uns ont été donnés comme apôtres, comme les messagers, les envoyés du Seigneur pour nous communiquer l'Évangile. D'autres, ils sont envoyés comme évangélistes pour annoncer donc le Seigneur. D'autres comme pasteurs, c'est-à-dire comme bergers pour s'occuper des brebis. Et puis d'autres comme enseignants. Alors, c'est quelque chose de merveilleux. Pour nous faire grandir, il a donné des ministères. Pas seulement les dons de l'Esprit, mais des hommes qui ont un ministère. Si tous ont un témoignage, il y a pourtant des hommes que Dieu a revêtus d'une façon particulière et qu'il a appelés à exercer ce ministère. Et si moi, vous me direz, mais qu'est-ce qui vous autorise à prêcher? Il y a 45 ans, quand j'avais 19 ans, en Italie, dans une chambre, à 5 heures du soir, un samedi, il m'a appelé. Je m'en souviens. Je ne serais pas ici si lui-même ne m'avait pas appelé à le servir tel que j'étais. Et c'est lui qui me donnerait ce que j'avais à dire par le chapitre premier de Jérémie, qui est le chapitre de ma vocation. Oui, il y a 45 ans. Il y avait 5 ans que j'étais au Seigneur, que je l'avais rencontré. Cette année, ça fait 50 ans, par la grâce de Dieu, de vie avec Jésus. 50 ans qu'il est entré dans mon cœur, que je l'ai laissé entrer dans mon cœur, et je ne m'en repens pas. Eh bien, ensuite, c'est lui qui nous qualifie. Et il a agi ainsi, verset 12, pour préparer les membres du peuple de Dieu à accomplir la tâche du service chrétien pour faire progresser le corps du Christ dans la foi. Et il y a un seul corps. Mais malheureusement, les églises se sont divisées et les dons sont répartis dans différentes églises, et puis on ne se voit pas, de sorte qu'il y a pauvreté spirituelle presque dans tous les milieux. Comprenez-vous? Tandis que si on peut accepter que telle personne est un don, non seulement pour un milieu, pour notre milieu, mais pour l'Église, nous devons donc devenir non pas des hommes d'un milieu, des hommes de secte, mais des hommes de Dieu, pour le peuple de Dieu tout entier, quelle que soit la confession dans laquelle vous êtes né. Ne recevez pas ma parole comme la parole d'un homme qui appartient à un milieu particulier, mais recevez cette parole de la part d'un homme qui ne voudrait être que le canal de Dieu pour tous les autres. Il a agi ainsi pour préparer les membres du peuple de Dieu à accomplir la tâche du service chrétien pour faire progresser les différents corps du Christ. Le corps du Christ dont chacun de nous sommes les membres. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de notre foi. C'est tellement merveilleux. Si vraiment vous laissez le Seigneur vous enseigner, nous marchons réellement vers l'unité de notre foi et de notre connaissance du Fils de Dieu. Souvent, ce qui nous différencie, c'est notre degré de connaissance du Seigneur. Mais plus vous connaîtrez le Seigneur, plus vous vivrez près de lui, plus vous vivrez les uns près des autres. Je ne peux pas vivre près du Seigneur et loin de ceux qui avec qui le Seigneur est proche. Si je suis proche du Seigneur, le Seigneur me met proche aussi de tous ceux qu'il aime. C'est quelque chose de merveilleux. Et alors il est dit, verset 13, nous deviendrons des adultes, c'est-à-dire nous aurons la maturité. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Voilà le troisième âge de la vie chrétienne, que nous tendions à devenir, à atteindre cette stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues et poussés çà et là par n'importe quel vent d'enseignement répandu par des hommes trompeurs qui entraînent les autres dans l'erreur par les ruses qu'ils inventent. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, j'espère que vous l'avez senti, que nous essayons de vous proclamer la vérité avec amour. Il y a des fois les vérités qui font mal, mais quelquefois bien, il faut faire un peu de chirurgie cardiaque. Il faut des fois débrider un abcès. Après, ça va mieux. On se sert d'une épée. Il y a des gens qui aimeraient simplement qu'on leur fasse de la pommade. Toujours de la pommade. Oh, vous êtes bien gentil, vous êtes beau, tout va bien. Bien sûr, le Seigneur vous aime, restez les mêmes.
de ce bassin.
Il faut des fois prendre l'épée. L'épée de l'esprit, mais croyez-le, hein, si vous avez connu un des tranchants de l'épée, moi je connaissais l'autre. C'est pour ça que j'ai besoin de silence et de solitude. Parce que quand j'ai prêché aux autres, je me suis prêché à moi-même. Et je sens besoin d'aller m'humilier et de m'agenouiller et de demander que ce que j'ai dit aux autres, je le vive, que je le réalise et que je ne sois pas moi-même réprouvé. Je le dis quelquefois, je n'emploie pas un sabre pour prêcher. Un sabre, ça n'a qu'un tranchant. Alors on coupe les têtes avec un sabre. Tandis qu'une épée, ça a deux tranchants. Il y en a un pour vous, puis il y a l'autre pour moi, toujours. Je n'ai jamais prêché sans me prêcher à moi-même. Alors, proclamons la vérité avec amour. Nous devons grandir en tout jusqu'au Christ, qui est la tête. Voilà. C'est grâce à lui que les différentes parties du corps sont solidement assemblées et que le corps entier est bien uni par toutes les jointures dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie agit comme elle doit, le corps entier grandit et se développe dans l'amour. Eh bien, c'est ça, les caractéristiques de la maturité spirituelle. Comme Paul le dit, Christ est formé en nous. Colossiens, chapitre 1, verset 28, Paul dit, c'est à cela que je travaille. Avec la force que Dieu m'a donnée, je travaille à rendre tout homme pour qu'il soit rendu parfait en Christ. Et une autre chose qui manifeste la maturité spirituelle, c'est que quand on a une pensée différente, vous me direz, mais vous savez, M. Racine, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas d'être d'accord avec moi qui me réjouit. C'est que vous soyez d'accord avec Dieu, que vous soyez d'accord avec le Seigneur. Mais maintenant, si vous avez un autre sentiment sur un point ou sur un autre, eh bien, prenez Philippiens 3. La maturité spirituelle, c'est pas de dire c'est moi qui ai raison et vous qui avez tort. Parce que plus on avance dans la vie, plus on devient humble. Et on se dit, au fond, il y a peut-être certaines choses que j'ai pas encore compris. Alors, au lieu de m'en tenir à mon idée, je demande au Seigneur de m'éclairer. Chapitre 3 des Philippiens, au verset 15. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons, nous tous qui sommes parfaits, dit second, dans la version français courant, c'est plus simple. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même façon de penser au sujet du Seigneur, qu'il est tout. Cependant, si certains d'entre vous pensent autrement, Dieu vous éclairera à ce sujet. Quoi qu'il en soit, continuons à avancer dans la voie que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Continuons de marcher ensemble, de marcher dans le même sentier. Et puis si on a un autre sentiment, demandons à Dieu qu'il nous éclaire et qu'il fasse la lumière. Et à ce moment-là, alors, vous pourrez aussi penser à ces caractères d'un homme adulte que vous trouvez dans ceux qui aspirent à devenir des anciens, des surveillants. 1 Timothée, chapitre 3, vous verrez que ceux qui désirent devenir anciens ou surveillants ou évêques, vous verrez ce qui doit les caractériser. Et hélas, quand on voit quels sont les anciens que l'on nomme dans certaines communautés, on se demande s'ils lisent encore la parole. On se demande s'ils lisent encore la parole. D'abord, ça ne devrait pas être une nomination là, comme on le fait dans le monde. Ce serait quelqu'un qui en a revêtu les caractères d'un véritable ancien, qui a élevé sa famille et qui a une expérience. Mais non, on met des fois des tout jeunes. Mais moi, je les aime bien, les tout jeunes, mais ce n'est pas encore leur rôle d'être anciens. Ça viendra. Ça viendra. Mais quelquefois, on met des tout jeunes dans la foi à des postes de responsabilité, ça leur monte dans la tête, et ils tombent dans le piège du diable. Vous savez lequel ? Bien orgueilleux. Et puis tout à coup, eh bien, avec leur responsabilité, ils découvrent qu'ils ne sont pas corrects, qu'ils ne vivent pas ce qu'ils disent, et puis, c'est la dégringolade complète. Et alors, ça fait un mauvais témoignage pour tout le monde. Mais ça, c'est la responsabilité des plus âgés qui ne suivent pas l'Écriture. Alors, on arrive à la conclusion. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que je vis maintenant dans la chair? Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Alors, notre conclusion. Nous avons parlé de la vie chrétienne, de ces trois âges de la vie, l'enfance, l'adolescence, la maturité selon l'esprit. Mais j'ai encore une angoisse. Y aurait-il dans cet auditoire des personnes étrangères à ces choses? Des personnes qui vivent depuis je ne sais pas combien de nombre d'années sans avoir le Seigneur? Des personnes qui vont mourir peut-être? Sans Jésus? Alors, qu'est-ce qu'on écrira sur votre tombe? Si j'y un homme, une femme qui a vécu sans vivre et qui est mort sans être née. C'est ça que vous voulez? Si j'y un homme ou une femme qui a vécu sans vivre. Parce que ce n'est pas à vivre, de vivre sans Jésus. C'est lui qui est la vie. Si j'y un homme, une femme, qui est mort sans être né, parce qu'il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu, pour voir le royaume de Dieu. Mais si un homme ne voit pas le royaume de Dieu, alors qu'est-ce qu'il va voir? C'est en moi qu'il dit. Je laisse le Seigneur vous le dire. Il verra les ténèbres du dehors et il aura en partage les pleurs et les grincements dedans. Puis ce n'est pas Dieu qui vous aura repoussé. Parce que même si vous mourrez sans Dieu, quand vous devrez être en sa présence, savez-vous ce qui va se passer? Vous ne pourrez pas rester devant lui. Vous vous enfuirez vous-même. Ce n'est pas des anges qui vous jetteront dehors. C'est vous qui ne pourrez pas supporter la lumière parce que vous n'en avez pas voulu sur la terre. Alors vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de la lumière et de l'amour. Dieu ne vous aura pas jeté en enfer. C'est vous-même qui vous en irez dans les ténèbres du dehors parce que vous avez voulu garder votre nature et que votre nature, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Et bien qu'aujourd'hui, si vous avez entendu sa voix, vous n'endurcissiez pas vos cœurs, et qu'aujourd'hui, 25 octobre, soit vraiment pour vous la journée que l'Éternel aura faite, alors que vous direz, Seigneur, je t'accepte, je te reçois,
je me confie en toi, je te laisse faire. Et remerciez-le. Dites-lui, je te loue, Seigneur, parce que tu m'as accepté. Vous n'avez pas besoin d'attendre une révélation. Dites-lui, je sais que tu m'as accepté. Parce qu'il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu notre Père, tes bras sont ouverts et tes bras se referment sur tous ceux qui s'approchent de toi. Que cette journée, scellée de ton esprit, soit le commencement pour plusieurs d'une vie toute différente et toute à ta gloire. Que nous t'ayons reçu il y a des années, que nous te recevions aujourd'hui, donne-nous de te dire, Seigneur, prends toute la place, remplis ma vie de toi-même, et que nous puissions croître jusqu'à la pleine stature du Christ, pour la gloire du Père au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.